Bonjour à tous, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de votre émission Ça vous concerne, votre émission toutes les deux semaines, émission politique. Et en ce moment, c'est les municipales qui se préparent. Et nous-mêmes, nous nous préparons donc. Nous sommes allés tendre notre micro à différents candidats. En l'occurrence, cette semaine, c'était Guillaume Penel, qui représente donc le Rassemblement National et qui nous a parlé de toutes les thématiques qui lui sont chères. Avant toute chose, je crois qu'une petite introduction s'impose. Nous ne tendons pas ce micro de façon spéciale à Monsieur Penel. Nous l'attendrons à d'autres candidats. Et nous pensons fermement à Ça vous concerne, c'est-à-dire je pense fermement qu'il est important de donner la parole à tous, même si certains partis font parfois un petit peu polémique. Et si vous êtes d'ailleurs en désaccord avec ce que dit M. Penel, n'hésitez pas à venir nous voir, boire un petit café avec nous, et puis on verra pour vous inviter pour venir en discuter dans une de nos émissions. Sans plus attendre, je vous propose qu'on commence donc, M. Penel.
Alors, M. Penel, vous êtes délégué départemental du Rassemblement National.
C'est
vous
ça.
Êtes également, si je ne m'abuse, président du groupe Rouen Bleu Marine, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça, c'est le groupe en fait, c'est la dénomination en fait que nous avions. eu en 2014 lors des élections municipales. Et puis en fait on est trois assiégés au conseil municipal. Et voilà, je suis président du groupe en fait, voilà, puisque j'étais tête de liste, c'est le titre en fait que l'on donne en fait à ces petites structures, ces groupes qui siègent au sein du conseil municipal. Voilà.
De toute façon, en règle générale, au Rassemblement National, vous avez bien la couleur bleu marine.
Oui, c'est pas faux, la preuve, regardez, je suis habillé en bleu marine, mais ça m'arrive aussi de porter du rouge, hein, et du vert et du violet, voilà.
D'ailleurs, rouge et du vert, couleur plus
oui,
audacieuse.
Couleur plus audacieuse, non, c'est une belle couleur, voilà. Après, peut-être connoté politiquement maintenant, mais je porte du vert et je mange des haricots. Hein.
Ah, bon, bah, oui, quand même, si vous voulez manger que des choses bleu marine.
J'aurais un petit peu de mal, effectivement. Oui.
Vous êtes donc également conseiller régional, si
c'est ça, oui.
Et vous êtes donc, et je trouve que c'est intéressant de le dire également, prof d'histoire géo.
Oui, tout à fait.
Parce que
voilà,
nous
c'est
avons
mon métier.
Régulièrement notre prof d'histoire géo, ici, monsieur Manuel Labbé, régulièrement dans cette émission.
Oui,
je
oui.
trouve intéressant de voir qu'on peut être prof d'histoire géo, chacun de son côté de l'échiquier politique, en l'occurrence. Alors, par où commencer? Je vous propose de parler du Rassemblement National pour commencer. Le Rassemblement National, finalement, est assez discret ces temps-ci, non?
Bon, ça, c'est vous qui le dites, ou alors vous ne suivez pas l'actualité?
C'est mon opinion.
Oui, c'est... Mais, donc vous êtes journaliste et vous donnez votre opinion, c'est un petit peu embêtant.
Ah, ça fait plaisir. J'espère de retrouver que... le ton habituel du Rassemblement National.
J'espère, on peut... Non, c'est vous qui le dites. Voilà, nous, on a une actualité, voilà, suivez les médias en fait, locaux. J'ai déclaré ma candidature, en fait,
vous l'êtes
il y a
pas.
Peu...
discret.
Dans la presse, je sais pas, donc vous dites qu'on parle peu du Rassemblement National, je pense que assez régulièrement, et d'ailleurs il faut le souligner en fait, assez régulièrement, sur les chaînes d'information continue, mais sur les grands médias en fait, nos porte-paroles, notre présidente bien sûr, mais nos porte-paroles en fait, et sont assez régulièrement invités, peuvent s'exprimer sur les sujets d'actualité du moment. Voilà, en ce moment, c'est plutôt des questions sociales sur la retraite, ça peut être bien sûr d'autres sujets, la sécurité, l'immigration, l'intégration, l'assimilation, même l'environnement. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, en fait, nos porte-paroles, et ils sont nombreux, plutôt assez jeunes d'ailleurs, sont régulièrement invités. D'ailleurs, ce qui laisse dire que, contrairement à ce qu'on pouvait avant, c'est vrai qu'on pouvait dire que le temps de parole n'était pas relativement équilibré. Il y a eu des progrès, des efforts, bien sûr. On sait que le temps de parole est délimité en fonction des groupes, en fait, aussi à l'Assemblée nationale. Bon, après, il y a un autre débat, en fait, parce que nous, on juge, en fait, que la représentation au sein du Parlement n'est pas conforme, en fait, à l'opinion générale. Cela dit, voilà, je pense qu'on peut nous entendre, on nous entend. La preuve, c'est que je suis votre invité aujourd'hui. Non, on s'exprime assez régulièrement et je crois que c'est un fait marquant. Bon, après, on est aussi incontournable sur le plan politique. Voilà, c'est les résultats aussi qui amènent et je pense qu'il y a une attente. Les Français souhaitent aussi entendre en fait, les représentants du Rassemblement National, puisque je rappelle quand même que, certes, ce sont les élections européennes, mais nous sommes arrivés en tête au mois de juin dernier et notamment dans de très nombreuses communes de Seine-Maritime, donc non, je trouve qu'on est bien représenté dans les médias. Hein.
Enfin, parlons donc de représentation du Rassemblement National, notamment au Parlement.
Oui.
Trois députés, c'est ça?
Non, un petit peu plus.
Un petit peu
en
plus.
Fait, c'est huit. En fait.
Huit députés.
Huit
députés pour un parti qui est deuxième aux élections présidentielles.
Oui, voilà. Bon, alors ça, c'est le propre, en fait, d'un mode de scrutin qui n'est absolument pas représentatif. Voilà. C'est un mode de scrutin majoritaire, ancien, qui ne correspond plus en fait à la modernité. Sachez que dans de très nombreux pays européens, pour ne pas dire l'intégralité des pays européens, le scrutin qui prévaut, c'est le scrutin proportionnel. C'est-à-dire que vous faites un certain nombre de voix, vous obtenez donc proportionnellement le nombre de députés par rapport au nombre de voix. Et nous, on a en France un scrutin majoritaire qui favorise en fait les partis finalement anciens du vieux système qui se protègent ainsi, ou qui va favoriser, comme on le voit maintenant, en fait le candidat qui remporte l'élection présidentielle, puisque, et ça c'est un problème de fond, hein, où l'élection législative est passée un mois et demi après les élections présidentielles, et on assiste finalement à une démobilisation de tous ceux qui n'ont pas gagné, et une mobilisation un petit peu artificielle en fait du parti qui a remporté ces élections. Et d'ailleurs, on a vu aux précédentes élections que moins d'un Français sur deux ne s'était déplacé lors de ces élections législatives. Ce qui donc démontre bien en fait que les Français n'ont même plus confiance en ce mode de scrutin. Ils disent que l'élection allait jouer d'avance, mais la démocratie c'est l'opposition, voilà. Il est normal. Est-ce qu'il est normal en fait que le parti d'Emmanuel Macron ait près de 400 députés ? Ça sert à quoi en fait ? Ça sert à quoi ? Et même parmi nos adversaires politiques, la France insoumise, par exemple, a réussi à faire un groupe, ou le Parti communiste a réussi à faire un groupe, mais par rapport à ce qu'ils pèsent réellement dans l'électorat, en fait, ils ont 13 ou 14 députés, c'est évidemment insuffisant. On sait très bien, en fait, que si proportionnellement, en fait, on devait être représenté conforme, on aurait près de 100 députés, et La République En Marche aurait quand même la majorité à l'Assemblée nationale, vous voyez. Donc, et ça, je pense que les Français l'ont intégré, et c'est une demande, en fait, qu'on a pu entendre sur les ronds-points, et en tout cas, tout le long de l'année, il ne faut pas s'étonner. Si vous voulez, si les Français ont pris d'autres formes en fait de manifestations dans le cadre démocratique, c'est-à-dire qu'ils ont choisi la rue pendant de très longs mois pour aussi alerter en fait le pouvoir qui avait aussi un problème de représentativité.
En tout cas, on reparlera des gilets jaunes au cas d'autre, mais parlons justement de ce fameux phénomène de front républicain que vous rencontrez à chaque élection au Rassemblement national. Après, j'aimerais qu'on parle directement du sujet dans lequel on va être obligé de tomber forcément à un moment donné. Le Front National est-il un parti d'extrême droite ? Et le Front National est-il un parti républicain ?
Je pense que... Alors, il y a deux
questions.
Il y a plusieurs questions. Sur le Front Républicain, bon, je pense que ce sont les vieux partis politiques, en fait, qui tentent de se sauver mutuellement les uns aux autres. On voit qu'on a pris du plomb dans l'aile, ce fameux dit Front Républicain. Alors, ça me fait un peu... sourire quand j'entends en fait que certains se réclament de la République quand ils ne respectent pas la voie des référendums, par exemple. Prenons le référendum, nous on est pour les référendums, donc c'est pour ça qu'on n'est pas véritablement d'extrême droite, et on est, quand un référendum a lieu, on en respecte en fait le vote, même si celui-ci ne nous fait pas plaisir. Et l'ensemble des partis en fait qui nous gouvernent, et on ne va pas se cacher, ceux qui ont évolué vers La République En Marche n'ont pas respecté la voix des Français en 2005, où 55% des Français avaient dit non, c'est pas neutre, 55% des Français, ils ont fait chi en fait, que ce soit à l'époque la classe politique, UMP, PS, ils ont tous évolué vers En Marche, voilà, eux ils n'ont pas respecté la voix des Français. Alors ça me fait doucement sourire en fait, si vous voulez, quand on nous dit qu'on n'est pas démocrate. Et puis d'extrême droite, ça veut dire quoi extrême droite ? Extrême droite, c'est l'anti-parlementarisme, nous on est pour la représentation au Parlement. L'extrême droite, c'est ceux qui souhaitent en fait prendre le pouvoir par la force. Nous on a toujours respecté le cadre électoral, les élections, bien au contraire. Voilà, donc on a compris, si vous voulez, et ça ne tient en fait qu'en France, voilà, ça leur permet, mais ça marche plus d'ailleurs, ça leur permet en fait de ne pas répondre aux véritables questions, ça vous permet en fait d'éviter les problèmes de fond, de dire, ah, regardez, ils sont forcément d'extrême droite, non pas du tout, on est pour le débat, on est pour les élections, quel que soit le résultat, même si on peut contester, comme on l'a dit tout à l'heure, le mode de scrutin, parfaitement républicain. Moi, on siège dans les assemblées municipales. Hier, c'était une scène municipale de Rouen. Voilà, il n'y a pas de problème. On débat dans un cadre démocratique, sans aucun problème. Et il faut respecter, en fait, la voix des Français, encore une fois. Et même quand ils ne sont pas d'accord avec vous, il faut s'incliner. Et puis, il faut en tirer les conséquences. Donc, bon, tout ça, c'est des vieux débats. On a l'impression qu'on est encore dans les années... 80, 90, tous ces vieux partis politiques, en fait, dans la réalité, qui s'accrochent tant bien que mal, en fait, au pouvoir, on le voit bien, on est triste, la campagne des municipales qui s'ouvre, en fait, on voit une espèce de candidat mainstream, en fait, voilà, bien sûr, où tout le monde essaie de s'accrocher, La République En Marche, les centristes, maintenant les Républicains, vous voyez, donc c'est une question de réflexe, ils ont un réflexe pavlovien, en fait, c'est-à-dire c'est avant tout pour sauver leur poste, on te sauve là, et puis tu nous sauveras là-bas. Bon, non, je pense qu'il faut véritablement tourner la page, je pense qu'aujourd'hui, si les Français voyaient un véritable danger en nous, ils ne nous amèneraient pas régulièrement en tête des élections. Après, le combat politique en France, c'est ainsi, il faut obtenir la majorité. Voilà, c'est pas si simple. Hein, voilà, une majorité constructive, c'est-à-dire, c'est ça, la démocratie, dans un régime comme le nôtre, c'est souvent 50% plus une voix. Bon, c'est ainsi, mais nous, on respecte parfaitement et hors de question, en fait, de prendre le pouvoir différemment. Voilà, même si c'est un combat difficile, la vie politique, c'est difficile, bah, voilà, c'est un combat de fond aussi, voilà. Non, non, on respecte parfaitement, parfaitement les règles, bien au contraire. Souvent, nos adversaires, qu'on voit, qui détournent en fait la démocratie et la République pour conserver leurs propres avantages et privilèges, bon, ça nous fait doucement sourire.
Bon, avant de regarder comment dire, les sièges du Conseil municipal, regardons les sièges du Parlement européen, en tout cas de l'Europe. L'Europe, c'est une thématique sur laquelle le Rassemblement national a plus ou moins changé d'opinion ces dernières années, non ?
Donc, évolue, mais parce qu'on prend aussi en compte, en fait, ce que nous disent... c'est intéressant, enfin, je veux dire, prendre en compte ce que nous disent, en fait, les Français. Vous voyez, par exemple, effectivement, la construction européenne. Bon, peut-être que... bon, premièrement, l'Europe, il faut qu'on soit clair. Il y a l'Union européenne et l'Europe. Nous, on est parfaitement européens et on est prêts, bien sûr, à collaborer, comme on le fait, d'ailleurs. C'est tout à fait normal avec nos amis des autres pays européens, qu'ils soient espagnols, slovènes, belges et même anglais, s'ils ont choisi une autre voie, certes complexe. Mais disons que je pense que c'est l'Union européenne et son cadre, en fait, dans son organisation, qui pose réellement problème. C'est-à-dire celui, en fait, d'un pouvoir concentré dans une Commission européenne, en fait, qui a des pouvoirs, en fait, bien trop importants, en fait, qui sont loin des réalités. C'est ce qu'on dénonce. Nous, on souhaite une Europe plus ouverte sur les peuples, plus démocratique. Alors, il ne s'agit pas, en fait, de tuer l'Europe. Non, c'est de faire évoluer la construction européenne vers un cadre qui respecte davantage les souverainetés, qui respecte les peuples, leurs différences, parfois leurs points communs, parce qu'on a beaucoup de points communs avec nos amis des autres pays européens, mais aussi nos différences, nos spécificités. Puis il faut savoir entendre la voix, encore une fois, des Irlandais, il faut savoir entendre la voix des Slovènes, des Hongrois, des Roumains, des Grecs aussi. Je vous parle volontairement, en fait, de pays qui ont des difficultés sociales et qui ont souvent l'impression, en fait, qu'il y a un axe, en fait, Bruxelles-Berlin, en fait, qui décide pour eux. Il ne s'agit pas, peut-être que ça avait mal été formulé, ou on nous avait enfermés, en fait, il y a quelques années, dans dire voilà, vous voulez sortir de l'Europe, le Frexit, je pense que c'est un terme, en fait, qu'on n'a jamais véritablement employé, voilà. Je pense qu'il y a une vraie défiance avec la Commission européenne, avec aussi les dirigeants européens, principalement Merkel, voire même Macron, qui veulent imposer une Europe, en fait, qui est peu respectueuse de la démocratie et de la volonté des peuples. Et le plus important, c'est toujours ça. Même si le peuple n'a jamais tort, en fait. Le peuple n'a jamais tort, en fait. Quand il parle, quand il a la majorité, en fait, pour s'exprimer, on doit le respecter. Et c'est ce qui manque cruellement, en fait, à l'évolution récente de cette Union européenne. Voilà. Et c'est le sens, en fait, de notre combat politique, en tout cas au sein des instances européennes.
Thank you.
Imaginons que vous ne parveniez, que vous ne parveniez pas, j'entends le Rassemblement National, à façonner l'Europe telle que vous pensez qu'elle devrait être. Est-ce que éventuellement vous envisageriez un Frexit comme on dit?
Non, je pense que c'est pas. Oui, non. Je pense que c'est pas propre. On peut pas sortir comme ça, de cette façon assez brutale. Bon, par contre, on voit bien que un petit peu partout en Europe, il y a des voix, que ce soit même en Italie, voire en Allemagne, en Autriche, en Belgique, il y a aussi les peuples en fait qui se réveillent et qui proposent une autre vision en fait de l'Europe. Parfois, c'est vrai que bon, le Rassemblement National, jadis le FN, en fait, on avait l'impression qu'on était les seuls en fait à dénoncer cette Europe technocratique en Europe. Mais on voit bien aujourd'hui en fait que d'autres partis politiques, d'autres mouvements en fait se sont levés en Europe et eux-mêmes proposent une autre vision. Voilà, donc c'est pas nous seuls Français qui pourrons décider, voilà, en fait, du destin de l'Europe. Non, c'est les peuples ensemble et les dirigeants ensemble. Donc non, le Frexit d'ailleurs, qui est une expression que je n'apprécie pas nécessairement, voilà, n'a pas lieu d'être. Voilà. Alors si un jour il y avait un référendum d'organiser sur la sortie de l'Union européenne, voilà, et que les Français diraient oui, bon bah il faudrait respecter. Je pense qu'il ne faudrait pas poser la question en ce sens. Voilà.
Bon, maintenant jetons un œil sur notre belle ville de Rouen. D'abord de façon très générale, puis ensuite on reviendra notamment sur des points que vous avez abordés qui sont intéressants. Quel regard vous portez sur la ville de Rouen déjà?
Rouen, c'est une belle ville, ça fait 25 ans en fait que j'y vis. Alors c'est vrai que malheureusement ces dernières semaines en fait tombaient un petit peu sous le feu négatif en fait des commentaires, mais c'est une ville qu'on apprécie encore une fois. C'est une ville qui est diverse, il y a plusieurs quartiers, on les oublie un petit peu, voilà. Il n'y a pas que le cœur historique, même si c'est considérablement aussi important. Non, c'est une ville qui, malheureusement, a subi, c'est aussi l'histoire de Rouen. Hein. On a un passé très industriel, voilà, et qui a subi de plein fouet, en fait, les fermetures, les délocalisations, en fait, dans les années 70-80. On en souffre encore, notamment dans les quartiers populaires, voilà, notamment, je pense à la rive gauche. Mais c'est une ville qui a été gérée. Je pense trop longtemps en fait par un système, celui de Laurent Fabius en fait, qui est à bout de souffle en fait, et on en voit là, je pense en fait, les limites, au niveau de son organisation politique. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, et je pense que en fait, faut rassurer en fait, maintenant c'est important, rassurer les Rouennais et rassurer aussi les acteurs extérieurs en fait. Rouen n'est pas sous un grand nuage en fait noir, et encore, il y a encore beaucoup à faire, et c'est vrai que l'image a été ternie un peu trop, je pense en fait, ces dernières semaines. Il est considérablement important de faire vivre cette ville, mais pas uniquement à travers en fait quelques vues, quelques quartiers, en fait, quelques cartes postales rouennaises. Encore une fois, Rouen, c'est une ville en fait de 111 000 habitants, avec beaucoup de quartiers modestes, beaucoup de quartiers populaires. Il faut aussi parler à ces Rouennais en fait, qui sont souvent à l'écart en fait de l'hypercentre. En fait. Et c'est aussi en cette direction-là que je me suis toujours battu. Nous sommes toujours battus au conseil municipal, et on redémarre là, dans cette campagne municipale qui arrive.
Quel regard vous portez sur les Hauts-de-Rouen?
Les Hauts-de-Rouen, en fait, c'est un quartier en fait qui est assez attachant, parce que j'y étais souvent. Voilà. Bon, après, ce qui concentre, ça, on sait bien, hein, comme d'autres quartiers, un certain nombre de difficultés, mais c'est aussi un quartier où on fait beaucoup de voix, hein, assez régulièrement, voilà, que ce soit sur la Grand Main, soit sur les Sapins. C'est un quartier en fait où on est plutôt, je trouve, les bienvenus. C'est un quartier qui mérite en fait qu'on ait une autre image de lui, en fait. J'ai l'impression aussi que voilà, il y a beaucoup d'argent qui sont investis en fait dans les Hauts-de-Rouen ou à Grammont ou dans d'autres quartiers, mais on n'en voit pas les fruits finalement. Ça fait 40 ans qu'on a l'impression qu'on injecte beaucoup d'argent, des sommes absolument considérables, pour des difficultés en fait qui se sont maintenues, qui se sont concentrées. Je pense que voilà, c'est des quartiers qui méritent en fait véritablement qu'on se réintéresse, mais réellement à eux. Voilà. Je pense que c'est des quartiers où on doit, d'une manière ou d'une autre, réactiver en fait. Le dynamisme économique qu'il a perdu, alors ça passe aussi par une lutte, et là, c'est un des combats, une lutte sans merci contre le trafic de drogue et toutes les formes d'insécurité. C'est une demande aussi, une très grande partie en fait, de ses habitants, pour stabiliser ces quartiers. Comment voulez-vous attirer des acteurs économiques, des entreprises, des professions libérales, si en fait on ne règle pas en fait le problème en fait chronique de cette insécurité massive? En fait, vous avez 150 en fait personnes qui créent les problèmes. Voilà. Ils sont clairement identifiés, ils sont connus, mais ils polluent en fait la vie des habitants. Et donc c'est un problème récurrent, mais à un moment donné, il va falloir qu'on le règle. Parce que, premièrement, parce que la sécurité, c'est une vraie liberté. Et les Français, les habitants d'Oran, excusez-moi, qui prennent les transports en commun, qui rentrent chez eux parfois à des heures tardives, c'est pas parce qu'ils sont dans un quartier périphérique de la ville qu'ils n'ont pas autant de droits, en fait, que ceux qui sont dans l'hypercentre. Hein. Donc, la sécurité, c'est un problème de fond. La lutte contre le trafic de drogue, c'est un problème de fond. Parce que si on arrive un jour, et on l'espère, à régler ces problèmes-là, vous verrez en fait que l'emploi, le dynamisme économique pourra revenir. C'est pas que ça, bien sûr, mais au moins faire en sorte que les gens restent, quoi, que les gens restent propriétaires dans ces très nombreuses petites maisons de la Grand Mare, qui peuvent accéder à la propriété, voilà, qu'ils soient calmes, et enfin, que ce quartier soit calme pour rassurer aussi. Aussi la population. Non, c'est important. Je sais que vous êtes une radio en fait qui évolue sur les Hauts-de-Rhône, hein, voilà. On est plutôt. Voilà, ça fait partie de ces quartiers en fait. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein, voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup des Hauts-de-Rhône, ouais, probablement à juste titre, mais vous savez que la pauvreté. Donc, les gens modestes aussi habitent des îlots en fait, parfois, quand on oublie un petit peu, par exemple, je pense à la rue d'Urneuil, un peu plus sur Grieux, en bas des Hauts-de-Rhône, et bien sûr sur la rive gauche. Bon, il y a Gramont, mais il n'y a pas que. Et il ne faut pas, je pense, puisqu'on évolue là dans un petit café à proximité de la place Saint-Marc, vous avez ici des quartiers populaires, hein, Marin-Lupigny, et il ne faut pas les oublier non plus. Voilà.
Demain, Guillaume Penel, maire d'Oran, c'est le moment de la question BFM. Demain, Guillaume Penel, maire d'Oran, votre première action.
Ma première action, bon déjà je pense que ça serait un moment de gravité, parce que être maire d'une ville, voilà, j'irais rassurer les gens, voilà, j'irais tout de suite à la rencontre en fait, et pas seulement des gens qui ont voté pour moi aussi, voilà, j'irais aussi rencontrer en fait, parce que quand on est maire, on est le maire en fait des 111 000 habitants. Donc je pense que ma première semaine, j'irais dans tous les quartiers, voilà, et notamment en fait dans les quartiers où on ne pense jamais, quoi. Vous me verrez aux quatre cantons en fait, hein, vous voyez où, en dessous VHDR, vous me verrez en fait rue du et vous me verrez sur toute la rive gauche. Voilà.
Et pourquoi j'irai rassurer. Être maire avant de venir nous voir sur le Hauts-de-Rhône ?
Non, parce que à votre radio HDR, voilà, j'étais déjà invité, je le rappelle, en 2014, hein, mais j'y vais régulièrement, croyez-moi. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, en fait, j'étais dans les quartiers des Sapins, voyez-vous, en fait, autour de Saint-Jean-Eudes. Donc, c'est des quartiers qu'on connaît bien, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Mais non, mais après, vous avez la fonction d'élu, d'adversaire municipal, d'opposition. Voilà, vous me demandez ma première. Décision en tant que maire, moi j'irai voir les habitants directement, voilà. Et même s'ils ont des choses à me dire, en fait, assez désagréables, il faut savoir les entendre.
Bon, pour préparer cette interview, j'ai été un petit peu stalké, comme on dit, vos réseaux sociaux. Entre autres, j'ai pu notamment y voir qu'il y avait trois thématiques qui vous tenaient particulièrement à cœur. La première, c'est la sécurité. Évidemment, non, là, ça ne nous surprend pas vraiment.
Non, mais c'est important.
En ce moment national, c'est certainement important. La sécurité, ça a part où en ce moment ?
Je rappelle quand même qu'avant le drame de Lubrizol, en fait, Rouen avait vécu quand même des actes d'une rare violence.
C'était un acte relativement isolé, peut-être.
Un acte isolé, vous plaisantez, non ? C'est que vous disiez mal, en fait, vos confrères, puisque, voilà, et des sources policières, on sait très bien qu'il y a eu une vague, en fait, d'hyper-violence, en fait, depuis 3 mois à Rouen, des actes gratuits, violents, barbares, il faut le dire, même si ça déplaît, en fait, on pourrit, en fait, le centre-ville jusqu'à même assassiner... quelqu'un d'une catégorie modeste, voilà, qui venait régulièrement prendre un verre et jouer aux fléchettes, il est tombé sur des barbares. En fait. Il est tombé sur des barbares qui l'ont sauvagement assassiné. Et ça s'inscrivait dans un contexte voilà, où les violences aggravées pour un téléphone portable, pour un mauvais regard, en fait, s'étaient multipliées. Et ça, c'est pas tolérable. Ce n'est absolument pas tolérable. Et une fois qu'on a arrêté en fait, ces individus, il faut les mettre clairement en prison, leur faire comprendre en fait, que. Rouen, c'est pas ça, la France, c'est pas ça, et que tout le monde a le droit à la tranquillité. Dans les quartiers modestes, on a le droit à la tranquillité. Les gens qui sortent le soir, ils ont le droit à la tranquillité. Voilà. Et l'attractivité de la ville, c'est ça aussi. L'attractivité de la ville, c'est une ville sûre. C'est prendre les transports en commun. Parce qu'ils nous disent, on ne prend pas suffisamment les transports en commun. Bah ouais, vous savez, vous avez des familles avec des enfants, voilà, c'est pas des mères esselées. En fait, c'est pas évident de prendre les transports en commun, notamment à des heures tardives. Voilà, il faut les rassurer. La sécurité, ça correspond à l'attractivité de la ville. Je préférerais pas en parler, hein, mais le problème, en fait, c'est que les faits sont là. Les faits sont là et il faut les régler. Alors, on sait qu'un maire, attention, c'est pas parce que Guillaume Penel sera maire de Rouen, c'est la police municipale, on a un ministre de l'Intérieur, hein, qui est plutôt incapable en fait, de faire régner l'ordre en fait, le samedi après-midi. Donc, je vois comment il aurait du mal à faire régler en fait, l'ordre, mais de façon plus générale. Mais un maire, en fait, c'est un véritable... Il faut rassurer, en fait, surtout que le maire soit à côté des victimes, en fait. Et on a un peu l'impression, si vous voulez, qu'on pense souvent, en fait, l'avenir du délinquant, l'avenir du voyou, plutôt qu'à ceux qui souffrent. Donc je pense qu'il faut les aider, les gens, il faut les rassurer. Un maire, ça doit être à côté des gens les plus modestes. C'est-à-dire, quand on fait de la politique, on ne la fait pas nécessairement pour les grands acteurs économiques, en fait, qui gagnent bien leur vie, on le fait en direction des gens les plus modestes. Et c'est la même chose dans le cadre de l'insécurité, être à côté des victimes, les aider dans leurs démarches administratives, juridiques. Alors vous avez aussi la police municipale, bien sûr. Voilà, vous connaissez la police municipale, elle peut avoir des prérogatives importantes, on va pas régler l'ensemble des problèmes, voilà, notamment liés au trafic de drogue, mais disons qu'on peut considérablement améliorer les choses. Oui, c'est un thème, mais c'est un thème parmi d'autres, voilà, il y en a d'autres, voilà, mais c'est un thème qui, je pense, dans le cadre, en fait, pour attirer, en fait, parce qu'on nous parle en permanence d'aller voir les candidats. Il faut qu'on soit attractif, attractive. Le mot attractivité, on l'entend partout. Déjà, on va faire une ville sûre, voilà, où on peut se promener tranquillement. Et déjà, vous verrez en fait que ça rassurera la population. Et c'est des choses simples, mais qui paraissent tellement évidentes à répéter parfois.
Everything you had for
vous sentez pas en sécurité dans les rues de Rouen?
Bah, écoutez, moi, voilà, je suis un grand jeune homme, voilà, je serais capable de me défendre voilà, dans la mesure du possible, mais quand vous êtes, encore une fois, une maman isolée, un jeune couple en fait, qui sort le soir, en fait, il est bien légitime en fait, qu'il y ait un certain nombre d'inquiétudes. Voilà, je pense que l'image de la police, voilà, je pense que souvent elle est présentée peut-être parfois d'une mauvaise manière en fait, mais les policiers sont là aussi pour rassurer les gens. Vous savez, les policiers en fait, hein, les policiers municipaux, ce sont des gens qui gagnent pas, voilà, ce sont des gens qui touchent des salaires phénoménaux, quoi. Ce sont des gens qui appartiennent des classes milieu modestes à des classes moyennes, et ils ont tout aussi en fait, sont confrontés en fait aux difficultés en fait des gens. Donc les forces de l'ordre, la police doit aussi se mettre, voilà, doit comprendre que, excusez-moi,
pas de souci.
La police en fait, voilà, elle n'est pas là en fait uniquement pour sanctionner, il faut être à côté des gens. Voilà, on a besoin en fait d'une certaine forme de visibilité, c'est attendu, voilà, alors peut-être que d'autres sont pas d'accord avec moi, bon, bah, voilà, c'est le débat, voilà, mais je pense que c'est une attente aussi.
Vous m'évoquez un point intéressant là, c'est, ça me revient en tête, la visite de monsieur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur les Hauts-de-Rouen, qui nous a déclaré que c'était une zone de reconquête républicaine, selon le terme je crois officiel, et qui nous a annoncé une police de sécurité du quotidien. Qu'est-ce que vous pensez du terme reconquête républicaine? Le républicain, on le retrouve hein, toujours. Et est-ce que vous pensez que cette unité de sécurité du quotidien, police de sécurité du quotidien,
c'est que des ministres, on en a vu, vous me citez Castaner, mais il y a quelques années, c'était Cazeneuve, on en a vu, s'ils font leur petite tournée, puis Rouen, c'est pas loin, donc ça leur permet de faire un aller-retour. Voilà. Donc c'est des grands mots, voilà. Je pense que les Français et les habitants de ces quartiers veulent des actes, en fait, plutôt que l'énième, en fait, oh, attention, vous allez voir avec moi, ça va changer. Il appelle ça comme il veut, il met des grands mots en fait, d'accord, très bien, bah, parce que ce que veulent les habitants, c'est des actes dans la durée, voilà, c'est ça le plus important. Donc, une police du quotidien, bon d'accord, mais où on en est là pour l'instant, voilà. Les paroles, à l'instant T, et puis plusieurs mois après on fait le bilan, et malheureusement en fait on en a vu passer des ministres, on a vu même passer Emmanuel Macron, donc voilà. Enfin,
du coup vous pensez, vous Guillaume Penel, que ce qu'on appelait quand j'étais encore jeune et fringant la police de proximité, ça pourrait déjà être un pas?
Bah, le problème c'est que cette police de proximité avait été supprimée parce qu'elle avait été accusée, peut-être à tort en fait, c'est une période où j'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Une police de proximité, c'est une police qui est présente, une police qui obtient des renseignements, et qui se présente aussi sur un jour un petit peu différent, mais qui règle aussi les problèmes, quoi. Voilà, qui contribue à l'amélioration de la sécurité aussi dans les quartiers. Une police de proximité, c'est une police qui est présente. Voilà. C'est une police qui présente, qui va dans les cages d'escalier sans problème, qui rentre dans l'épicerie, qui va chercher son pain, qui discute, qui obtient aussi des renseignements, qui doit régler aussi les problèmes, qui patrouille assez régulièrement pour éviter en fait les mauvaises actions ou les petits cambriolages en fait qu'on a par exemple dans les maisons individuelles de la Grand Mare. Ouais, c'est ça une police du quotidien. Donc il faut des effectifs, oui, bien sûr. Bon voilà, si vous voulez. Enfin, vous allez me dire, ce sont un peu la même chose, mais j'ai aucune confiance en ces ministres en fait, qui paradent en fait, qui jouent les gros durs devant les caméras, et qui en fait 6 mois après sont plus ministres de l'Intérieur, ils seront trois secrétaires d'État, je ne sais quoi. Voilà. Donc des faits. Oui. Il faut des faits en fait en politique. Hein.
Deuxième thématique qui vous importe, encore une fois, reprenez-moi si je...
Je
m'égare, mais
non.
La qualité de vie dans Rouen,
ouais.
Question certes vaste, mais néanmoins intéressante.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la qualité de vie dans Rouen?
La qualité de vie, en fait, ça regroupe beaucoup de choses, en fait, un mode de vie, bien sûr, ça comporte des aspects environnementaux, mais aussi le cadre de vie, c'est des trottoirs bien entretenus. Et ça me frappe, en fait. Ça me frappe, alors on ne sait plus trop qui s'en occupe, hein, si c'est la métropole ou si c'est la mairie de Rouen. Quelqu'un s'en occupe, vous avez bien raison, parce que vous savez de quoi je veux parler. En fait, alors certes, vous le savez, il y a plusieurs mois, on a interdit l'utilisation des produits en fait, phytosanitaires pour désherber en fait, les trottoirs, tout ce qui est mauvaises herbes. Très bien, pourquoi pas. Mais on ne sait plus rien. C'est-à-dire que vous avez une emprise en fait sur l'ensemble des trottoirs, et notamment dans les périphéries des villes, où c'est devenu la forêt vierge. Et quelle est la conséquence de ça, monsieur Milieu? C'est ni plus ni moins que les trottoirs, ils explosent. En fait, parce que l'herbe, en fait, s'infiltre. Et en fait, on a des nids de poules partout. Et je suis allé au Mont-Gargan la semaine dernière, en fait, faire une visite de quartier traditionnel. C'est quand même assez effrayant. les trottoirs à proximité de l'école sont dans un état absolument lamentable. C'est une honte, en fait. C'est un quartier qui est abandonné. Alors, on appuie les produits phytosanitaires, d'accord. Mais donc, comment on fait ? C'est-à-dire, il faut utiliser en fait, les agents en fait, de la ville à désherber. Et voilà, je sais que dans certaines communes, on passe au chalumeau. Certains me diront, le chalumeau, ça ne va pas. Il faut bien trouver une solution. On le fait à la main. Parce que vous savez, c'est un effet inverse. Parce qu'au bout du compte, c'est les particuliers eux-mêmes pour régler les problèmes qui achètent des produits phytosanitaires et puis qui désherbent. Donc, dans les faits, on a toujours, conclusion, on a l'utilisation toujours par les particuliers des produits phyto. Et puis, dans le sens, en fait, on a des trottoirs qui sont complètement déstructurés. Vous allez. Parce que ça m'a frappé. Sur mon gargant, vous voyez un peu l'école où il se trouve. En fait, les trottoirs sont dans un état lamentable. Alors, vous avez des personnes âgées, vous avez des parents d'élèves, des mamans, souvent, peu importe, voilà, des enfants handicapés. Ils marchent où ? Sur le milieu de la route ? Et non, parce que sur le milieu de la route, il y a des nids de poules. Bon, je pense quand même que, vous savez, on parle, en fait, et encore une fois... nos adversaires, en fait, dans cette campagne politique, parleront de grands projets, du développement de l'axe Seine, de l'attractivité de la ville. Qu'est-ce qu'on attend d'un maire ? Qu'est-ce qu'on attend, en fait, d'élus locaux qui règlent tous ces problèmes-là ? Et puis on s'aperçoit que dans le cadre de cette métropolisation à outrance, en fait, on ne sait plus qui fait quoi. Conséquence ? Eh bien, on a des quartiers qui se dégradent, mais ce sont les trottoirs, ce sont les lits de poules, mais c'est le quotidien des gens, ça. Quand vous sortez dans la rue, vous avez votre trottoir dans un état lamentable, c'est votre quotidien, puis vous allez vous retourner vers qui ? Vers le maire, et c'est bien normal. Voilà, donc c'est des choses simples, transpartisanes, qui ne concernent pas nécessairement tel ou tel parti politique, c'est du bon sens. Voilà, le maire s'occupe, en fait, de la voirie, de la gestion de la mairie, voilà, on est d'accord, du service, de la gestion des trottoirs, donc c'est un vrai sujet. On pourrait parler bien sûr du centre-ville, voilà, mais moi volontairement je parle en fait de ces quartiers en périphérie, visiblement, très bien, on n'utilise plus de phyto, mais au bout du compte, en fait, on s'occupe plus non plus de la gestion de la voirie.
Oui, puis finalement, dans le centre-ville, on n'est pas très à plaindre, puisqu'on n'a pas besoin de produits phytosanitaires, puisque nos trottoirs sont en terre battue. Donc les végétaux se sentent très très bien.
Ou alors, vous remarquerez que dans Rouen Métropole, en fait, ils ont choisi de dévégétaliser. Pour une mairie, en fait, qui est co-gérée, en fait, par les Verts, en fait, on a bétonné partout. Et je vous en parle, parce que c'est quand même assez frappant, avenue Eugène Delacroix, en fait, celle qui mène, en fait... qui traverse la rue Jean Le Canuet et qui mène au Théâtre des Arts. Là. Donc on a tout bétonné et puis on a fait pousser des bancs en bas, on ne sait pas trop, à 10 000 euros la bête. Hein. On a placé des grandes cuves en métal un petit peu partout, c'est-à-dire qu'on a oublié en fait, que la ville c'était aussi la végétalisation et on a investi 30 millions d'euros en fait, dans Cœur de Ville, mais on cherche encore la végétation. Donc voyez-vous, et on voit que je me suis baladé derrière moi, en fait, derrière la bibliothèque municipale, et en fait les dalles commencent à se désolidariser, c'est-à-dire qu'on a fait ça rapidement en fait, pour dire ouais, on a une belle ville avec l'Armada, mais au bout du compte en fait, on avait ça là vite, on s'est trompé dans les pavés, rue Rollon, et puis là les plaques, en fait, les dalles sont complètement désolidarisées. Ce qui fait qu'on a mis des planches de bois, mais c'est tout à fait ridicule. Il n'y a même pas de suivi dans les travaux, parce que voilà encore une compétence. Vous faites des travaux d'urbanisme, il y en a beaucoup, c'est normal. Voilà, réflexion en fait, canalisation. La ville, la métropole maintenant fait appel en fait à des appels d'offres et vous avez des groupes en fait, plus ou moins importants en fait, qui interviennent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par exemple, le maire, il a un adjoint qui s'appelle l'adjoint à l'urbanisme, le suivi des travaux. La mairie doit suivre la fin des travaux et voir si ces travaux ont bien été terminés et pas finis à la vie, parce que beaucoup d'entreprises, en fait, pour aller sur un autre chantier, en fait, ils n'enlèvent pas les barrières, ou ils se dépêchent le vendredi soir, en fait, pour reboucher un trou, ils le font mal. Mais logiquement, en fait, l'adjoint, en fait, en charge des travaux, alors maintenant, vous allez dire, c'est plutôt la métropole, en fait, doit être là pour surveiller la fin des travaux, pour voir, en fait, si ça a bien été cimenté, si les dalles sont bien fixées, et puis au bout du compte, on s'aperçoit, là... que tout ce désolidarisme, on va se retourner contre qui là ? Et c'est, on va faire un bout de ciment là, une plaque en bois. Bon, encore des exemples. Vous allez me dire, oui, c'est pas très important. Bah si, parce que tout ça, c'est l'ensemble voilà, d'une image, l'image d'une ville. Voilà, que ce soit les trottoirs en fait au Mont-Gargan, ou rue Durnard, là, entre les villes et Rouen, ou l'entrée de la ville, en fait, rue Durnard, c'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Et, ou alors dans le cœur de ville, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui semblent être de bon sens et qui sont encore une fois les compétences d'un maire et éventuellement des élus évidemment à la métropole, des choses simples, réelles du quotidien qu'il faut impérativement régler. Tout ça se faisait assez normalement, on a l'impression que tout le monde se rejette un petit peu la responsabilité, tout le monde s'en moque. Bon,
troisième thématique qui vous tient à cœur et qui tient à cœur un petit peu tout le monde depuis le mouvement des Gilets jaunes, c'est la parole citoyenne. Monsieur Pénel, la parole citoyenne, vous, comment vous la feriez avancer en tant que maire ?
Alors, du référendum déjà. Même si, encore une fois, il évoquait tout à l'heure, même si le résultat n'est pas conforme nécessairement à ses attentes, il faut l'admettre. Voilà. Des référendums locaux, déjà, à l'initiative du maire, mais aussi, et là, je pense qu'il faut aussi évoluer. Et, enfin, nous, c'était une vieille proposition qu'on avait, mais on l'a réentendue massivement. C'est-à-dire qu'il y a une demande, une attente, hein, à l'initiative, en fait, des habitants d'un quartier ou des habitants de la ville, en fait, plutôt d'initiative populaire, que j'ai appelé le RIC récemment, hein, voilà. C'est déjà assez important. Alors, vous allez me dire, il y a des élections. Voilà, vous êtes élu sur un programme. Logiquement, déjà, vous respectez le programme sur lequel vous êtes élu. Bon, déjà, c'est quand même un engagement et un respect, en fait, de la parole. Voilà, vous avez été élu, logiquement, vous respectez. Ou si vous ne pouvez pas respecter, vous dites, en fait, excusez-moi, voilà, c'est pas si simple que ça, vous l'expliquez. Et là, je pense qu'il faut expliquer, en fait, aux habitants de la ville, en fait, pourquoi on fait ça et pourquoi on ne pourra peut-être pas le faire. Peut-être que si c'était une véritable pédagogie de dire, voilà, bon, je me suis engagé sur ce sujet-là, mais il faut aller les voir, les gens. Il faut leur expliquer. Voilà, déjà, c'est pas... Si tout ce désordre aujourd'hui est arrivé, si ce mécontentement de fond, c'est que en fait beaucoup de Français se sentent isolés et puis dire voilà, bah, nous on s'exprime, mais on tient jamais en compte en fait ce que l'on dit. Voilà, bon, voilà. Et puis bon, voilà, je reviens au référendum, qu'on ait des projets un peu structurants sur la ville qui engagent les finances de la ville ou d'un quartier, bah pourquoi pas, allons-y. Et puis une vraie, véritable consultation populaire, pas nécessairement par internet, voyez-vous, c'est sympathique, hein, en fait. Voilà, vous faites un sondage, puis vous avez 300 voix, bon voilà, et aussi de véritables consultations populaires. Donc voilà, c'est un élément, c'est un fait. Je pense qu'il faut sortir de la petite démocratie participative de dire, en fait, vous savez, les fameux conseils de quartier, vous avez toujours les mêmes, en fait, ils sont 10-15, souvent noyautés par la mairie, et puis finalement, c'est la mairie qui va imposer, en fait, au conseil de quartier deux ou trois projets, et puis finalement, à la fin, il n'en reste qu'un, et puis on me dit, bah, c'est le conseil de quartier qui a décidé. Non, voilà, alors attention, on va pas... on est conscient des difficultés, on est conscient aussi de la défiance aussi des Français, et notamment dans les quartiers populaires, les taux de participation aux élections sont extrêmement faibles. On le sait, on a encore les élections législatives et européennes. Bon, il faut essayer de trouver une forme de réconciliation avec la démocratie, et on sait qu'on n'aura pas 80% de participants dans ces élections, mais qu'on remonte peut-être autour de 50-51%. Donc le respect de la parole donnée, et puis donner l'initiative véritablement aux gens, et puis accepter en fait quand ils nous disent non parfois. Hein, ça, je pense que c'est pas pour ça que la maire va démissionner, parce qu'en fait, il a posé une question et puis on lui a dit non sur son sujet. Au moins, il aura donné la parole. Donc c'est une possibilité, voilà. On l'a toujours, toujours imaginé. Bon là, ça correspond à une véritable attente. Enfin, je pense qu'il faut y répondre très, très clairement, voilà. We'll be right back.
qui vous intéresse principalement, je dirais, néanmoins d'autres thématiques vous intéressent ces temps-ci, notamment Monsieur Louvel.
Monsieur Louvel, bon, vous le connaissez, vous l'avez vu, on n'entend pas parler de lui. Bah,
on va bientôt certainement l'interviewer si on peut. En tout cas, Monsieur Louvel est un homme très populaire ces temps-ci, puisque il a l'investiture LREM, si je ne m'abuse. Il est soutenu par le groupe Les Républicains, et de oui. toute évidence, vous trouvez ça incongru.
Disons que non, pas incongru, mais révélateur. Je préférerais le thème révélateur, en fait. Bon. Une sorte de candidat, enfin, encore un petit mot, hormis une déclaration de candidature au mois de septembre, il est où Jean-Louis Louvel? Il fait quoi? Il y avait un conseil municipal à Rouen hier, il aurait pu au moins assister au débat. Il vient jamais à la métropole. Voilà, donc je pense qu'il veut commencer sa campagne le 31 janvier, en fait, hein, voire même début février, pour pas dire un mot. Parce qu'on se demande quel est le projet de Jean-Louis Louvel, finalement, à Rouen. Sort de candidat un petit peu mainstream, en fait. Parce que monsieur, en fait, voilà, un certain nombre de casquettes sur sa tête. Bon, vous avez remarqué qu'il rejoint, en fait. Hein. La réalité, en fait, c'est un parti qui est un peu à bout de souffle, qui est en incapacité de monter une liste réelle, en fait, c'est La République En Marche, en effet, parce qu'ils ne connaissent pas la ville, parce qu'ils n'ont personne. Et en fait, ils sont bien contents d'avoir trouvé, en fait, Jean-Louis Louvel, qui avait un peu d'ambition politique après avoir eu des ambitions journalistiques, financières et sportives. Hein. Et puis, les Républicains. Ils ont choisi, en fait... Jean-Louis Louvel, mais c'est assez logique parce que La République En Marche et LR, il n'y a pas d'opposition. Dans 95% des idées qu'ils développent, ce sont les mêmes. Je vois aucune différence entre La République En Marche et les Républicains. Voilà, les Républicains En Marche, c'est caricatural, mais c'est la réalité. Voilà. Et puis ils font fi en fait de ceux qui sont un peu vestiges. J'ai beaucoup de désaccords avec M. Burr, mais c'est cette manière en fait. À Paris, voilà, de dire, vous n'existez plus, nous on soutient Louvel, pourquoi? Parce qu'on veut quelques places, pour soulever un poste d'adjoint, un poste à la métropole. Et puis, je pense qu'ils ont fait aussi un état des lieux. Quel est le score de leurs candidats aux européennes à Rouen? 7, 8%, je pense que dans les Hauts-de-Rouen, on doit descendre en dessous de 5%. Donc il y a aussi un état des lieux, ils ont bien compris en fait que s'il y avait une vraie liste LR, peut-être qu'elle aurait un peu de mal.
Hein, vous dites qu'ils n'avaient personne, mais ils avaient Marine Caron.
Non, elle est. Alors, Marine Caron,
elle a demandé l'investiture.
Oui, elle a demandé l'investiture En Marche. Mais en fait, elle n'est pas LR, Marine Caron.
Ah oui, pardon, d'accord.
Elle évolue.
Vous parlez oui, des Républicains. Oui, mais en même temps, comme les noms se ressemblent, c'est pas toujours évident.
C'est vrai. Et vous avez raison. En plus, ils ont réussi, c'est fabuleux, à créer en fait des acronymes qui se ressemblent. Non, Marine Caron est. Pour évoluer dans le camp des centristes. Elle était jadis UDI. Enfin, oui. vous me confirmez. Après, elle est avec Hervé Morin. Je pense que ça se passe très mal avec Hervé Morin en ce moment. Bon, elle a espéré avoir l'investiture En Marche Elle ne l'a pas eu. Bon, voilà, on verra en fait son évolution. Son évolution politique, mais ils voulaient tous désespérément attirer par le fameux magicien qu'on n'a pas encore vu, Jean-Louis Louvet, vous voyez, que ce soit Robert Picard, que ce soit Marine Caron, même Jean-François Bure. Il le dit encore dans le fond de ses articles. Je laisse la porte, en fait, à des discussions pour travailler avec Jean-Louis Louvel. Mais c'est ce qu'il avait demandé au départ. Il voulait travailler ensemble. Voilà, donc, vous voyez que vous soyez de... Voilà, alors après, c'est plutôt des problèmes personnels, à mon avis, des petites ambitions politiques pour aller chercher un poste d'adjoint ou vice-président à la métropole. Mais voilà, bon, je dirais dire que c'est leur problème. Hein, voilà, ça témoigne en fait qu'ils n'ont plus de prise en fait sur la vie politique nationale, et ça, on le voit sur la politique locale. Mais derrière tout ça, il y a encore quand même un certain nombre d'électeurs. Jadis des républicains, je dis jadis des républicains, mais qui se retrouvent un petit peu orphelins, parce qu'ils n'ont surtout pas envie de s'associer en fait à Emmanuel Macron ou au député Damien Adam. Voilà, c'est un fait.
Et finalement, quand on y pense, à part quelques vieux bastions socialistes dont Rouen est un des beaux exemplaires, le Rassemblement National, parti rebelle, parti anti-système, pour caricaturer un petit peu, et finalement peut-être le dernier vieux parti de France. Est-ce que ça vous fait pas peur? Vous n'avez pas peur d'être les prochains sur la liste?
Non, il faut toujours se méfier quand on fait de la politique. Toujours avoir un petit peu de recul, un peu d'humour aussi, vous voyez. Non, il faut se remettre en permanence en question, première chose. Hein. Puis bien écouter, bien sentir en fait les aspirations des habitants et de la ville. Voilà, moi je suis tout jeune en politique. Non, allez, j'ai commencé en 2012, ça fait déjà 7 ans. Voilà, mais non, il faut toujours se remettre en question. Voilà, moi je crois que c'est important. Écouter les évolutions de la société, écouter en fait ce que nous disent en fait les gens, mais même à se remettre aussi en question, mais toujours rester en fait fidèle à ses idées et respecter toujours la voix des habitants de la ville ou des Français de façon plus générale.
Alors finalement, là, il nous reste quelques minutes. Une petite conclusion de cette conversation, Monsieur Penel. Comment vous sentez ces futures élections? Est-ce que cette fois c'est la bonne peut-être? Ou est-ce que vous pensez que vous allez être renversé par un front républicain? Ou que sais-je?
Il ne faut pas trop se poser de questions quand vous faites une campagne électorale. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut en profiter pour rencontrer un très grand nombre de personnes. Encore une fois, les écouter, proposer. Après, il y a une élection à Rouen. Voilà, contrairement, vous savez, on connaît la sociologie de la ville, notamment celle de l'hypercentre, qui ne nous est pas naturellement favorable. Ce sont des catégories socio-professionnelles très favorisées, très attirées, en fait, par le modèle d'Emmanuel Macron. Mais c'est, voilà, c'est une dernière forteresse. Voilà, vous savez, la vie politique, c'est un combat de fond. Voilà. Et il faut, c'est pas parce qu'on a perdu une première fois les élections, il faut se remettre en question, je l'ai dit, mais c'est un combat de fond. À Rouen, peut-être un petit peu plus long qu'ailleurs, mais voilà, c'est toujours très enrichissant. Et c'est une campagne hivernale intense, il n'y a plus que 3 mois. Bon, après, il y a d'autres aventures, hein, régionales et départementales, hein, si importantes pour structurer en fait la vie des gens. Mais encore une fois, dans une campagne électorale, vous rencontrez des gens. Voilà. Et la preuve, je suis ravi en fait d'évoluer sur votre radio. Peut-être que ce n'est pas naturellement des gens en fait qui m'écoutent. Voilà, c'est un petit peu l'avantage. Et si on vous bagarre pour que nos idées avancent. C'est difficile la vie politique. Moi, croyez-moi, mais faut pas nécessairement faire de compromissions. Faut pas se renier. Et puis toujours respecter en fait la démocratie, même si on n'est pas élu, le combat continue. Voilà.
Je profite de ce que vous dites pour conclure moi-même avec une phrase. Que l'on soit en accord ou pas avec une personne, la démocratie ne se passe pas de l'opinion contraire. Et c'est pour ça que ce micro vous est tendu, Monsieur Penel, puisque quoi qu'en pensent certains, vous faites partie, que ce soit une bonne chose ou pas, peu importe, vous faites partie du paysage politique français. Voilà, merci à vous,
merci,
Monsieur Penel, pour cet entretien.
Et puis, à bientôt.
Oh. Well, I guess if you said so, I'd then have to pack my things and go. Better understand.